carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Vladimir Velikovic est né à Belgrade, en Yougoslavie, en 1935 et a été témoin des atrocités de la Seconde Guerre mondiale dès l'enfance, une expérience déterminante dont il est un des rares, en peinture, à s'être emparé sans parvenir à s'en défaire, rattrapé par les atrocités sans cesse renouvelées dans l'actualité du monde, sans parler de la guerre civile qui a fait éclater sa Yougoslavie natale dans les années 1990. La peinture de Velikovic appartient donc au registre du tragique. Elle est nourrie par une tradition picturale qui aborde la souffrance, la mort, la guerre, le mal, et une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Il connaît sa première exposition personnelle en 1963 et reçoit 2 ans plus tard le prix de la Biennale à Paris, à l'époque un grand prix de peinture, et décide alors de s'installer à Paris, où il vit et travaille aujourd'hui encore. Ajoutons qu'il a enseigné 18 ans à l'École des Beaux-Arts de Paris, et enfin, pour compléter cette vie de peintre, précisons qu'il est membre de l'Académie serbe des sciences et des arts, et aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts à Paris, au sein de l'Institut de France, où il a été élu en 2005 dans la section peinture, évidemment. Les abattoirs à Toulouse lui consacrent une grande exposition, Vladimir Velikovic, Les versants du silence, présentée du 17 novembre 2011 au 29 janvier 2012. Les œuvres de Velikovic sont présentes dans de nombreux musées et ont intégré des collections publiques et privées dans le monde entier. Les voir réunies en grand nombre, toiles et œuvres sur papier, par thème, par salle, par espace, dans cette cathédrale de briques, autrefois destinée à l'abattage des animaux, montrant pour la première fois certains dessins et certaines toiles des années 60, permet de prendre la pleine mesure et la cohérence de l'œuvre. Point d'orgue, gouvernail ou phare, une grande sculpture de Velikovic est exposée au rez-de-chaussée, pointant dans toutes les directions. Les abattoirs sont devenus une plateforme de la création artistique contemporaine incontournable, connue pour ses expositions temporaires et ses collections. La présence d'une œuvre de Picasso tendue sur l'un de ses murs immenses, en permanence exposée, à savoir le rideau de scène peint par Picasso en 1936 pour une pièce de théâtre, celle de Romain Rolland, qui avait pour titre le 14 juillet, fait aussi la réputation des abattoirs dans la région et dans le monde entier, parce que c'est une œuvre unique. La peinture de Velikovic, dont Toulouse offre là une magnifique vue d'ensemble, s'insurge, comme on l'a souvent dit, contre l'anéantissement de l'être et contre ce que l'homme est capable et coupable de faire à l'homme dans ce qu'il y a de pire. Pour résumer ou introduire cette peinture, qui est viscéralement positive, malgré la dureté des thèmes qu'il aborde, cruauté crue, corps torturé, corps en décomposition, paysage presque sans repère, active chez le spectateur des visions de champs de bataille non identifiés. Et sur un autre versant, le corps humain, en mouvement, en course, l'animal, chien, rat ou corbeau, double de notre animal humanité. Vladimir Velikovic, bonjour.
Bonjour.
Comment est né le projet de cette exposition, Vladimir Velikovic, Les versants du silence?
C'est un processus qui a commencé il y a déjà un an, à penser cette exposition sur la proposition d'Amélie Adamo, qui est le commissaire de l'exposition, et bien sûr avec l'accord de directeur des lieux, Alain Moussaigne, qui m'ont proposé de faire cette exposition qui avait une sorte de cheminement d'une simple rétrospective jusqu'à un concept qui est tout à fait particulier et qui n'a pas évité une domination côté rétrospective, mais l'exposition a été divisée dans une sorte de thématique et ces thématiques sont réunies avec un nombre de 9. Qui montre d'abord, parce que lieu s'y prête,
oui,
et sont des multiples salles avec une 9 et une sorte de descente pour ce qui est cette présence au rez-de-chaussée avec le rideau de Picasso. C'était un peu une sorte d'approche ou d'éloignement plutôt. Je peux vous dire, j'ai eu un peu peur de cette énorme fresque magnifique. Mais
on va revenir
bon, ça a été réglé rapidement. C'est-à-dire, on avançait au niveau de l'exposition. Au départ, le premier projet, c'était une exposition, une rétrospective des dessins.
Oui.
Puis, quand on a constaté l'ampleur du travail pictural, on s'est dit, on a décidé, le directeur a décidé, qu'on descend au rez-de-chaussée. Et il m'a donné le plaisir et l'angoisse d'utiliser toutes les salles. Il y en a 7, plus la 9, et puis les 3 salles qui sont en bas, au sous-sol, avec la présence de ce rideau-là. C'est-à-dire, on a travaillé sur le concept même de l'exposition, on a écarté cette idée de la rétrospective pure et simple en réunissant des tableaux anciens et puis en partant vers maintenant.
Mmh.
Et on a décidé de diviser cette exposition par thème.
Alors, je vais les énumérer. Il y a, dès qu'on arrive, en fait, une première salle qui a pour thème « Human in Motion », parce que dans votre peinture, il y a beaucoup d'hommes en mouvement, vous allez en parler beaucoup mieux que moi. Il y a une salle ensuite consacrée aux origines, parce que là, il y a des naissances, des origines sous toutes les formes. Une salle consacrée aux crucifixions, grand thème de votre peinture. Une salle consacrée en face, de l'autre côté, au gisant, une autre qui s'intitule « Bête philosophique », et puis deux salles consacrées à ce qu'on appelle chez vous les lieux. Ce sont des grands paysages, des paysages de silence, des paysages de mort. Et puis, au sous-sol, il y a d'abord une salle consacrée à une œuvre majeure qui s'appelle « Tête », dont vous allez sûrement nous parler. Et puis, une autre thématique, celle du néant, qui est abordée au rez-de-chaussée, en regard de cette œuvre de Picasso qui est proche de vos thèmes tout de même, puisqu'elle s'appelle « La dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin ». Et là, on va en reparler tout à l'heure. Donc, délibérément, le parcours n'est pas chronologique et confronte des œuvres anciennes, dessins, papier, œuvres sur papier, étoiles. Ça, c'est pour refléter toute la diversité d'expression qui a séduit aussi les deux commissaires de l'exposition. Dans ces thèmes abordés, il y a deux versants. Comment vous situeriez ces versants du silence qui vous habitaient ?
C'est Amélie Adamo qui a donné ce titre à l'exposition. Elle a défini les thèmes.
Mmh.
Et il faut dire qu'à l'intérieur des thèmes, il y a une chronologie. Et il y a un troisième paramètre qui est le rapport entre le dessin, qui est pour moi l'activité la plus importante, basique, et de la peinture. C'est-à-dire, à l'intérieur des salles, on a réussi à quand même montrer l'origine de certains thèmes et il s'est avéré que certains thèmes, sans que je sache ou à peu près, sont revenus régulièrement avec le temps. C'est-à-dire, il y a des thèmes qui ont été abordés dans les années 60 et qui ont réapparu dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cohérence au niveau de la pratique à l'intérieur des différents thèmes et qui est, bien sûr, avec une sorte d'évolution que j'appelle une évolution dans la continuité et les premiers signes, les premiers traits, les premiers dessins préparatoires et puis les dessins plus élaborés ont correspondu parfaitement avec ce qui s'est passé par la suite. Bon, les thèmes sont des thèmes que je ne suis pas toujours en train de continuer à les faire. Il y a les thèmes qui se sont arrêtés à un moment donné parce qu'il y avait risque d'exploitation.
De répétition.
De répétition. J'avais une sorte d'instinct que quand il fallait s'arrêter pour ne pas tomber dans le piège de la routine, de l'efficacité gratuite. Et puis c'était toujours avec une sorte de pressentiment qu'il y a un moment peut arriver et qu'il faut quand même que ça cesse.
Là, dans les salles, ça concerne quelle thématique ?
Bon,
vous pourriez mettre un point final à certaines de ces thématiques ?
Oui, il y a par exemple la première salle qui porte le titre de l'œuvre de Edward Muybridge que j'ai utilisée assez régulièrement dans les années 70, ça s'est arrêté dans les années 80, 85.
Donc cet homme en mouvement, hein,
c'était, oui, c'était les photos, les Edward Maybridge, il est connu avec Marais aussi, comme un photographe qui a décomposé le mouvement, qui m'a servi comme un document. C'est-à-dire, j'ai emprunté ce titre de son œuvre, qui est un 3 volumes assez magnifique. Et comme document, j'ai utilisé des situations, des sortes de remplacements dans mon travail du modèle. C'est-à-dire, je n'ai jamais dessiné d'après un modèle. Et puis, Maybridge, que j'ai découvert relativement tardivement, dans les années 70, chez un ami auteur de dessins animés. Et tout à fait par hasard, je suis tombé sur ces images et j'étais complètement fasciné. Et j'ai tout de suite vu qu'il y a une possibilité d'exploiter ça. Après, il y a cette salle des origines.
Oui.
Cette salle des origines, elle s'est relativement rapidement terminée parce que c'était le thème de la naissance, de l'accouchement, de tout ce que ça représente en joie et douleur, entre proximité de la mort et de la vie. Et il y avait cette salle où il y a ce genre de rapport par les dessins préparatoires, les dessins. Et puis il y a deux tableaux qui sont assez monumentaux, comme ce tableau qui a ce format un peu bizarre et qui s'appelle tout simplement Naissance. Il y a une petite anecdote. Ce tableau-là, il était exposé dans le pavillon yougoslave de l'époque à la Biennale de Venise.
Oui.
Et il y a le nonce de pape qui a demandé qu'on retire ce tableau.
À l'époque, c'est un tableau de 1969.
Oui. Et bien sûr, comme le pavillon yougoslave appartient à la Yougoslavie, il n'était pas question. C'était
de le
un
retirer.
Territoire extra.
Territorial.
Il n'appartient pas dans le domaine de.
À l'époque, italien. Votre peinture choquait.
Qu'est-ce qui
pouvait choquer dans cette naissance où on voit... Parce que là, il y a déjà, vous évoquiez ce tableau, il y a déjà beaucoup de votre écriture picturale là.
Oui, c'est une période... Ces tableaux-là, c'était des premiers tableaux que j'ai fait à Paris après mon installation qui a été à cette époque-là temporaire, mais bon, il s'est avéré que ça dure déjà 50 ans. Et c'était une rencontre avec la possibilité, ce qu'on peut dire, de la peinture au niveau chromatique. Tout d'un coup, j'étais en présence d'une abondance des couleurs dans le vrai sens du terme. Et c'est une période qui n'était pas trop longue, de 3-4 ans, où il y avait effectivement de ce qu'on peut appeler de la présence de la couleur dans mon travail. C'était l'utilisation des rouges, des bleus, des verts. Et c'était une volonté de présenter ce acte de naissance dans toute sa plutôt brutalité.
Sa brutalité,
avec
sa
une lecture
force.
qui est à la fin quelque chose qui rime avec la joie, avec le bonheur. Et j'ai considéré cet acte comme un acte... bien sûr, vital, comme un acte...
On parle de vitalisme à propos de votre peinture.
Et bon, la présence de certains éléments qui ne vont pas forcément avec cet acte-là, avec cette situation-là, bon, il y a des oiseaux, il y a des rats, il y a une dramaturgie à l'intérieur de ces images, bien sûr volontaire, pour montrer toute cette brutalité, toute cette violence de cet acte-là.
De cette éruption.
Quelle éruption.
Ouais. Il y a déjà, dans ce corps qu'on voit, qui accouche, déjà on l'identifie, il y a quelque chose de l'anonymat ou de l'universalité qui touche déjà, et c'est pourtant une toile de 69. Il n'y a pas de visage particulier, c'est que aussi, déjà là, il y a quelque chose qu'on va retrouver dans toute votre peinture, en fait.
Oui, bon, l'absence, ça vous avez constaté à juste titre, l'absence de visage, l'absence de ressemblance, c'est un corps... qui est un corps plutôt en explosion et avec cette volonté de dégager cet effet-là comme une éruption, un volcan qui donne naissance à cet être qui est un être vivant, quoi.
Alors ça aussi, ce mouvement-là dont vous parlez, on va retrouver dans votre peinture cette absence de repère. Vous n'êtes pas un peintre au sens classique de la perspective. Là, on est dans l'explosion graphique. Hein.
Oui, oui.
Pour l'œil qui ne vous connaît pas, on est dans un espace qui n'appartient qu'à vous, qui joue sur cette force de l'énergie.
De l'énergie, oui, bon... On revient un peu dans la première salle. Il y a cette décomposition du mouvement avec tout ce que ça représente. symboliquement, il y a notamment ce quadriptyque qui est à l'entrée et qui est un tableau de grand format où on voit une figure, un personnage, un homme qui rentre en scène, qui se lance dans une sorte, ce qu'on peut appeler de la vie, qui commence à tomber. Et le quatrième volet de ce quadriptyque, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il y a une sorte de tas de poussière et vers la limite du tableau, il y a deux rats qui s'en vont et qui partent. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Même pour les rats, il n'y a plus rien. C'est-à-dire c'est une trajectoire, c'est-à-dire symbolique. L'arrivée, le lancement, la vie, et ça commence un peu ce diagramme de la chute qui se termine, qui se finalise avec ce rien qui reste de nous, un peu de cendre.
Est-ce qu'on peut aborder la salle des...
Des crucifixions ?
Oui, des crucifixions, parce que depuis les années 1990, vous avez entamé un dialogue avec Matthias Grünewald, ce peintre du XVIe siècle, dont on connaît le retable d'Isenheim que vous avez découvert à Colmar et qui a été un grand choc esthétique pour vous. J'aimerais que vous nous parliez de ce dialogue. Peut-être que justement cette salle consacrée aux crucifixions est une des salles qui n'est pas justement consacrée à une thématique close, parce que c'est une thématique sur laquelle vous êtes déjà revenu.
Ouais, qui est en évolution encore maintenant, mais il faut que je dise que la première crucifixion, qui s'appelait Épouvantail, mais qui est une sorte de crucifixion, qui date des années 60.
Tout à fait.
C'est-à-dire là, on a montré...
C'est la première fois qu'on les voit d'ailleurs.
Ouais. Oui, parce que c'est la collection du musée de Belgrade, on a fait venir ce tableau-là, et cette crucifixion-là, qui s'appelait Épouvantail, était déjà présente dans différents dessins préparatoires, dont on voit la présence, ce rapport dessin-peinture, qui était toujours une chose tellement importante pour moi, c'est-à-dire, même on dit que ma peinture est dessinée, elle n'est pas peinte... Bon, c'est pas nécessaire.
C'est pas aussi simple.
C'est pas aussi simple, mais j'avoue que le dessin est tellement important, et puis même les peintures que j'entame, que je commence, elles sont dessinées, et puis ça s'élabore au fur et à mesure, on avance dans le tableau. Et là, cette salle-là, elle est typique pour ce genre de concept où on voit une sorte de présence des thèmes qui sont revenus comme un cercle qui se superpose, et maintenant, c'est un des thèmes qui est toujours en gestation, si on peut dire, et que je continue à jusqu'à je ne sais pas où. Je dois quand même faire intervenir mon instinct et s'arrêter à temps. Mais c'est un thème tellement énorme et tellement, entre guillemets, exploitable qu'on connaît la présence de la crucifixion dans différentes... sorte de présentation qui date des 1300, 1200, et qu'elle a fait une sorte d'envolée avec la Renaissance. Et puis, en 1994, je connaissais le tableau de Grünewald. C'était un tableau qu'on n'oublie pas. C'est un choc pas uniquement pictural, c'est un choc émotionnel. Et j'ai trouvé là une sorte d'âme sœur ou d'âme frère qui est... cette expression de la douleur qu'on voit rarement dans ce genre d'images, qui sont un peu pieuses, un peu avec une sorte de vouloir plaire. On ne se rend pas compte ce que c'est exactement, ce corps sur la croix cloué. Et Grünewald, quand même, a fait une sorte d'approche avec des gens ordinaires. Il les a réquisitionnés comme modèles dans un hôpital pour des malades, je ne sais pas quels. Et il a présenté ce retable qui n'en finit pas avec tout ce que ça représente. Mais je me suis un peu fixé sur le torse du Christ avec tout ce que ça représente, cette blessure, cette inclinaison de la tête, ses mains.
Alors,
qui sont en soi une sorte de miracle au niveau de l'expressivité. On n'a que ses mains comme une sorte de remplacement de tout le reste. Bon, ça participe à l'efficacité de cette image et j'en ai fait des variations, c'est-à-dire le torse que j'ai utilisé. J'ai essayé au départ de le traiter par différents moyens, en dessin, en fusain, en acrylique. Je dois dire que le fusain, je ne suis pas très adepte à ça, mais j'ai fait sorte d'exercice. et en traitant ce torse à différentes manières, en gris, en rouge, en bleu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de variation sur le thème et qui m'ont quand même beaucoup intéressé dans cette sorte d'élaboration pour obtenir une sorte, malgré le fait que c'est une matrice que j'ai utilisée presque à la même dimension sur les feuilles du papier, du même papier, et que j'ai fait en une trentaine de variations comme ça. Ça, je dois dire un peu arrêté. Et je suis passé à quelques images peintes, picturales, en peinture. Et ce thème, je vous ai dit, continue à m'inspirer, si on peut dire. Et je vois encore des possibilités de le développer, d'aller un peu plus loin. Et ça, bon, et maintenant, il y avait d'une simple crucifixion avec toujours la présence des oiseaux, des corbeaux. On sait très bien quelle est leur caractéristique, quel est le rôle du corbeau, le charognard. Et bon, les derniers tableaux, c'était une série de décors qui sont dans des différentes situations, en présence avec ces énormes corbeaux qui se lancent sur ce corps attaché sans résistance, sans possibilité de se défendre.
Avec des oiseaux aussi grands d'ailleurs que certains de ces corps crucifiés. C'est un.
Oui,
c'est
il y a.
Très,
du,
les, y a les là, formats, vous avez des variations.
Ouais. Les formats, ce que j'ai un peu adopté tout de suite comme attitude par rapport à la surface peinte, c'est de, avec les formats, de donner une possibilité d'entrer dans l'image, c'est-à-dire une sorte d'identification à l'échelle réelle. C'est-à-dire, je regarde ce tableau, c'est comme si c'était quelque chose qui est devant moi. Il n'y a pas de perspective. Il y a... Le corps, en général, il est toujours dans une sorte de premier plan. Il sort du... Au moins, j'imagine qu'il sort de la toile et il est en présence à cette échelle réelle qui peut se reconnaître en vous et puis vous regardez ce sorte de dialogue qui est important avec l'image qui est là, présente. Surtout.
Vous-même, vous avez été témoin de crucifixion dans l'enfance, dans les atrocités que vous avez connues ?
Non, moi, j'ai... Bon, là, vous avez cité quelques éléments de mon enfance. Bon, je suis un enfant de la guerre. J'ai vu certaines choses. Probablement, sans faire appel à la psychanalyse, les images se sont emmagasinées quelque part dans ma mémoire. Et puis, il faut dire que dès que j'ai commencé à dessiner, et puis avec mes débuts de peintre, qui étaient assez précoces, il faut dire que j'expose depuis...
Ça fait 50 ans,
16,
là.
16 ans. Oui. La première exposition, c'est en 61. Et il y a quelque chose qui était presque définitif dans le choix des sujets, des thèmes, et qui était toujours ça. Bien sûr, ce que j'ai dit, j'ai évolué dans la continuité. Et puis, on voit dans les années 60 déjà une amorce de tout ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que cette exposition, pour moi aussi, mais pour les spectateurs aussi, a servi pour se rendre compte de ce déroulement, de cette évolution, s'il y en a une.
Justement, quel regard vous avez avec le recul sur votre œuvre, sur sa cohérence ? Parce que là, elle est révélée quand même.
J'ai eu peur qu'en regardant comment ça se constituait, que les gens peuvent constater qu'il ne s'agit pas d'un seul peintre. Mais en rentrant dans la matière de ce qui est présenté,
on
se rend compte tout de suite que finalement, il y a une personne qui est derrière tout ça. J'ai craigné un peu ce danger-là. Et il faut dire que certains tableaux que j'ai pas vus depuis des décennies qui sont sortis là, que j'ai fait bien sûr le choix des œuvres nécessaires à montrer pour illustrer bien le propos. Et j'avais comme ça s'alternait avec la peur et la joie et le plaisir de constituer tout ça et finalement de me présenter, de me représenter avec cette totalité de ce que j'ai fait.
À la fin de l'exposition, pour le visiteur, quand il descend en bas, dans les salles du bas, on rentre d'abord, avant d'arriver devant le grand rideau de scène de Picasso, on a cette œuvre majeure qui est les têtes sur la droite. Là, quel mini-parcours à l'intérieur du parcours entre les têtes, les néants et cette œuvre majeure de Picasso. Comment est-ce que vos œuvres ont dialogué et comment vous avez décidé de les mettre là, à tel endroit ? Pourquoi ? Comment ? Oui, sur cette ce n'est pas une fin.
Oui, au départ, il n'était pas question de descendre. Et on a quand même travaillé sur la nécessité que ça se termine en bas. Et en plus, bon, c'est le pur hasard, comme les gens disent, comme si ce musée-là, les ex-abattoirs, étaient faits pour toi et pour des tableaux de cette taille, avec
des formats
thématiques,
aussi grands.
Et puis finalement, Alain Moussaigne, le directeur, a quand même compris qu'il doit y avoir une finalité dans tout ça, et une sorte de finalité séparée du reste. C'est-à-dire, on descend sur quelque chose qui est le plus récent, et il s'est avéré que, dans la thématique du rideau du Picasso, à part un chromatisme qui est assez, sans savoir que ça se déroulera comme ça...
Il y a un chromatisme proche.
Chromatisme proche. Et la présence des oiseaux, le rideau aussi, on comporte des aigles, je ne sais pas. On a construit cet ensemble avec ces grands corbeaux dans une sorte de triptyque. Et quand on regarde ce triptyque-là et on tourne le dos au rideau de Picasso, je pense que c'est une solution assez heureuse parce qu'il ne faut pas regarder le rideau en même temps que mes tableaux. Et là, je joue la fausse modestie. Et on a constaté que c'était vraiment quelque chose comme si c'était fait pour. Et ce n'était pas fait pour du tout. C'est-à-dire, c'était des tableaux qui ont été en partie faits avant qu'on passe à l'organisation de cette exposition. Là, il y a comme ça une concordance et c'est assez, je ne sais pas. Peut-être c'était une sorte d'intuition qu'un jour, ceci se passera comme ça et tout ça. Et par rapport à ces deux salles latérales...
Oui, juste avant, est-ce que vous pourriez, vous, Velikovic, nous décrire cette dépouille de Minotaure en costume d'Arlequin?
Oui, c'est une composition d'abord sur le fond des ruines, ce qui correspond un peu. Et puis, bon, il y a cette sorte d'allégorie là qui fonctionne, avec cette virtuosité de transposition de Picasso admirable et qui est une sorte de rentrée en matière, c'était la pièce, mais c'est quand même dans la manière des rideaux de scène, c'est quelque chose qui pourrait être d'une actualité absolument incroyable. C'est-à-dire que l'histoire se répète là. C'était la guerre d'Espagne, tout ce que ça représentait à l'époque comme horreur. Et il y a cette composition avec ces deux personnages, tête d'aigle, de corbeau, de quelque chose qui est absolument efficace, mais surtout picturalement et avec une sorte d'efficacité malgré la légèreté de l'approche et de la réalisation. C'est comme une sorte d'aquarelle qui était jetée là.
Et pourtant, c'est comme une force aussi du thème, et comme vous venez de le dire, de cette tête mi-aigle qui donne le ton, qui donne le là, de la fureur qu'on entend, du mal qui est là, et de l'arlequin en dépouille. Il y a une concordance à la fois chromatique dont vous parliez, qui n'était pas spécialement souhaitée, et une concordance aussi thématique, quand même un peu sur cette...
Oui, c'est cette histoire de ce rapace-là qui est présent, et puis qui est présent juste en face. Et pour cette histoire des têtes,
c'est un ensemble. C'est une salle qui est juste avant.
Oui, c'est un tableau qui est de 2002 et qui est composé de 56 têtes. Le tableau porte le nom, c'est-à-dire sans nom. C'est-à-dire, ce n'est pas sans titre, sans nom.
Les têtes n'ont pas de nom.
Elles n'ont pas de nom. Ces têtes, entre guillemets, on peut les appeler les portraits, mais qui sont
inidentifiables.
Voilà. Et c'est quelque chose qui est de très, très près lié aux événements des années 90 qui se sont déroulés en Yougoslavie, quand le pays a commencé à se déchirer, à se désintégrer, et qui était une chose pour moi assez, peut-être même très, très douloureuse. Mais avec, en face de ce tableau-là, qui fait quand même presque 7 mètres, il y a des têtes qui sont apparus déjà dans les années 60.
Alors, c'est fascinant dans cette exposition.
Hein. C'est un peu sorte de cette logique dans la continuité. Et il y a cet ensemble des tableaux et dessins des années 60. Et puis, ça a commencé à se développer courant les années 70, 80, pour passer tout d'un coup à ce genre de mosaïque des têtes, et avec aussi une présence de cette tête en fer qui était présentée et qui était...
Ce sont des sculptures, là.
Ce sont des sculptures qui ont fait une sorte de entrée en matière, parce qu'elles sont tout de suite à l'entrée de cette grande salle.
Ouais. C'est-à-dire que là, le visiteur a devant lui ces têtes en fer. Déjà, elles sont en fer. C'est pas des sculptures de bronze bien polies. Hein.
On retrouve
un matériau qui rouille. On retrouve le temps. On retrouve la mort inéluctable. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce sont des petites têtes par rapport à vos grands formats, que ce soit en œuvre papier ou en toile. Ces têtes sont peut-être à l'échelle humaine, presque réduite. Voilà, peut-être réduite.
Mais il faut que je souligne aussi qu'une partie de la documentation qui m'a été fournie sur les événements de cette guerre-là était aussi pour quelque chose dans l'élaboration dans ce travail-là, c'est-à-dire les documents photographiques qui étaient réunis pendant ces événements terrifiants, terribles.
Cette guerre. Vous avez du mal à dire le mot.
Oui, c'est une guerre, mais ce qui était terrible dans cette guerre, que ce sont des gens qui avant-hier étaient des amis et qui se sont dressés les uns contre les autres. Cette haine, tout d'un coup, qui a ressurgi et qu'au moins moi, j'ai pu la deviner ni les voir dans un temps futur. C'est-à-dire, c'était d'une rapidité. Il y avait probablement des choses qui cuvaient quelque part. On a toujours des nationalismes idiots, crétins, qui sont quelque part éparpillés à l'intérieur des peuples, des populations et tout ça. Mais que ça soit à une telle manière, à une telle violence, à une telle atrocité, on est arrivé à quelque chose de Moyen-Âge avec notamment, il y avait des crucifixions, ce que j'ai vu en document. Et c'était vraiment insupportable.
C'est le silence habité.
Silence habité. Et puis, bon, cette dernière salle-là, qui est en face des têtes, il y a cet ensemble des tableaux qui sont des feux, des corbeaux, des... Je varie pas trop des noms de tableaux. Moi, je suis assez réducteur dans ce genre de registre d'inventer les tableaux qui portent à plusieurs reprises le même titre, mais c'est des paysages qui sont des paysages dévastés, en feu, avec ces mêmes corbeaux qui sont en train de picorer ce qui reste. Et c'est une salle qui commence avec un paysage de petit format et qui est un paysage qui s'appelait le paysage des oiseaux morts. C'est-à-dire, c'est de l'année 63 ou 4, et c'est un paysage où il y a les oiseaux, et puis il y a un sol, un ciel, et qui est très très clair, mais il y a une sorte, je pense, en le regardant, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, il y a une sorte de silence là, qui s'enflamme par la suite avec ces trois énormes tableaux qui sont dans la fumée, avec les cratères, et avec une sorte de silence qui justifie un peu le titre.
Le titre, ouais. Le titre. Et c'est étrange, quand Alain Moussaigne là, signe une introduction qu'il appelle « Le silence habité ». Amélie Adamo, quand je lui ai demandé dans une émission sur le Pont des Arts de décrire vos tableaux, elle a fait une description sonore, mais qui est en lien avec ce silence. Et on est dans une peinture où les repères sont justement des repères inhabituel, très inhabituel, que vous renouvelez, parce que le repère, c'est pas le corbeau, le repère, c'est autre chose, c'est peut-être simplement cet horizon sans perspective, et un horizon qui pourrait nous barrer la route, voilà.
Ouais,
mais
ouais.
C'est pas ça, il y a toujours cette force et ce vitalisme dont on a parlé au début, qu'on a évoqué, et c'est ce va-et-vient, ces versants de votre œuvre que l'exposition des abattoirs présente avec... brio, qui a la mesure de l'œuvre, mais l'exposition est aussi un très joli parcours pour inviter à découvrir votre œuvre et à la voir dans sa cohérence. Merci, Vladimir Velikovic.
Merci.
Merci beaucoup.